Wait a minute now. Okay, take two.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Tech2 7.2, une émission qui reçoit tous les 15 jours des artistes et des acteurs de la scène musicale locale. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Siesme. Bonjour.
Bonjour.
Compositeur, arrangeur, producteur via Good Citizen Factory. On retrouve bien sûr toutes tes productions depuis fin 90. Ça t'est venu comment, cette histoire-là ?
L'histoire de la musique, je crois que je suis d'abord un auditeur. D'abord quelqu'un qui prend plaisir à écouter de la musique. Et je crois que c'est faute d'avoir à un moment trouvé de la nourriture un peu. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire la musique que je ne trouvais pas ailleurs. Je pense que c'est ça qui a été le moteur.
Et tu as réussi à la trouver ?
J'ai réussi à me prendre de passion. En fait, j'ai surtout réussi à me prendre de passion pour cette création musicale. Mm-hmm. Parce qu'évidemment, mes premiers essais me laissaient plutôt sur ma faim. Mais j'y ai pris suffisamment de plaisir pour persévérer.
Quand tu dis que tu ne trouvais pas ailleurs, il n'y avait rien qui te faisait plaisir dans la musique que tu écoutais par
si,
les
si,
autres.
Si, si, bien sûr, mais j'avais un peu fait le tour de ce qui me plaisait.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est un peu le problème des. Ce qu'on appellerait des marchés de niche.
C'était quoi ce qui te faisait le tour ?
Je ne sais pas, par exemple, à l'époque, c'était donc le trip-hop. Et une fois qu'on avait fait le tour des Massive Attack, Portishead, et les quelques groupes qu'il y avait autour qui étaient moins connus. Il y avait pas grand chose, c'était avant internet, on
ça
ne trouvait pas aussi
rond.
Facilement la musique qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui ce serait différent, mais à l'époque se procurer la musique c'était un enjeu, et je crois que je trouvais pas chaussure à mon pied en fait.
C'est pour ça que tu as monté ton propre label. Ça a débuté comment, cette histoire en fait de Siesme? Tu étais dans des groupes avant, tu avais pris des cours, avant de te lancer, plutôt
autodidacte. Voilà, pas de cours en tout cas institutionnalisés quoi. Mm-hmm. J'ai rencontré des gens qui m'ont aidé évidemment. Pas de formation traditionnelle, pas de formation classique, mais un ordinateur. Et je suis la génération qui a vu arriver les premiers logiciels de MAO accessibles en tout cas.
C'est ça, de ce qu'on a appelé au tout début musique assistée par ordinateur.
Exactement. Hein.
Et c'est pareil, t'as appris tout seul, parce qu'au départ, les logiciels...
Ouais, j'ai appris
Ouais. De mon époque, je me souviens de ça, il y avait Cubase, il y avait pas grand-chose à l'époque. Les cartes son externes, c'était compliqué.
Sur un Atari 520 STE, donc c'était très très austère, avec juste un port MIDI. Hein, il n'était même pas question de carte son. Le signal était trop. Enfin, le son occupait trop d'espace pour être géré par un ordinateur. Donc c'était vraiment à l'ancienne. Mais je crois que cette difficulté, puisqu'il n'y avait pas de cours, j'avais même pas le manuel. Hein. Mm-hmm. C'était un logiciel piraté d'ailleurs. Je crois que ça a été un moteur aussi, c'est-à-dire que j'aime beaucoup apprendre et c'était l'occasion tous les jours d'apprendre. En soi, il n'y avait pas de finalité, hein. J'avais juste envie de faire de la musique et c'était la condition sine qua non en fait. Comme je ne suis pas un très bon instrumentiste, je ne joue pas particulièrement bien d'un instrument,
Depuis le temps, tu dois... Non ?
Non, en vrai, j'ai peu de plaisir dans la répétition, j'aime pas rejouer plusieurs fois les mêmes choses.
Ah oui.
Je ne progresse pas énormément en termes de... évidemment, je joue quand même mieux de clavier ou de la batterie aujourd'hui qu'il y a 15 ans, mais vraiment, je ne suis pas un bon interprète. Ce n'est pas mon point fort.
Il y a aussi, dans ce parcours-là, créer un label, sortir des disques avec des artistes locaux, c'est aussi une volonté, ça
C'est volontaire, mais qui, du coup, est plus politique qu'artistique, je crois, même si est-ce qu'on peut réellement dissocier les deux, ce serait l'objet d'un débat. Quand j'ai fait de la musique parce que j'avais envie de faire de la musique, puis s'est posé la question de « tiens, je la partagerais bien avec le monde entier », dans le contexte, c'était avec l'avènement d'Internet pour les musiciens, c'est-à-dire MySpace, qui était une espèce d'espoir, je crois, pour tous les...
Début des années 2000, oui.
En tout cas, moi, j'y ai vu un espace de liberté, la possibilité d'exister. Et j'avais l'impression que les structures qui préexistaient à ça, c'est-à-dire le label traditionnel, tel qu'on l'avait connu avant, n'étaient pas vraiment taillées pour la course. D'ailleurs, la plupart de ces labels ont montré du doigt Internet et MySpace comme le grand méchant. Alors moi, je me disais, mais c'est une façon de faire en sorte que tout le monde écoute la musique. C'était mon rêve de gosse, pour le coup, aller sur Internet, taper un groupe. Enfin, la raison pour laquelle j'ai fait la musique, c'est peut-être parce que j'avais pas ça, d'ailleurs. Mm-hmm. Si j'avais eu 10 heures, peut-être que la question ne se serait pas posée. Et donc, moi, je voyais plutôt ça comme une opportunité incroyable. Il y avait ça, déjà. Donc, je me disais, bon, il faut qu'on arrive à exister de cette façon sur Internet. Et puis, il y avait le volet...
Entrepreneur, ambitieux, faire...
Non, pas du tout. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, un contrat traditionnel, aujourd'hui, dans le disque, enfin, tel qu'il était, parce que ça fait longtemps, j'en ai pas lu. En gros, un artiste retouchait 7% sur ses ventes. c'est un truc qui, moi, m'a toujours rendu malade. Ça doit vraiment être... Enfin, là, c'est vraiment, on touche à la politique. Mm. C'est quand même mon travail, c'est moi qui le fais. La réalité, c'est qu'en plus, c'est moi qui le finançais. L'idée que parce qu'un mec le commercialise, fasse 93% de plus, donc, hein, si on fait le truc à l'envers, ça me paraissait à la fois pas très honnête, même si c'est peut-être dans la réalité économique pour qu'un label survive. Mais je me disais, mais c'est quand même... Si je fais un boulot et qu'on me reverse 7% de la richesse que j'ai créée, quelque part, en vrai, c'est vraiment incompatible avec, avec ma sensibilité d'homme de gauche, je crois.
Tu as produit les albums de Monsieur Saï.
Par exemple.
Tu les as mis en feat aussi, je crois, dans tes toutes premières productions. Ouais. Il y avait quand même cette démarche-là de passer aussi de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire d'être à la fois celui qui crée sous le nom de Siesme, avec son ordinateur, mais d'aider les autres et de produire aussi d'autres personnes, quoi.
Alors le truc, c'est qu'une fois que moi j'avais acquis ce savoir-faire en fait, qui était la capacité à enregistrer un disque, à le produire au sens anglais du terme, hein, c'est pas tellement le financement qui était un enjeu pour moi, c'était la capacité à le faire, enregistrer, diriger un interprète, faire en sorte que ça ressemble à un album, masteriser, avoir suffisamment de code pour faire créer une pochette, etc.
Oui, le terme de producteur anglais,
voilà,
qui met aussi la main à la pâte et qui met la couleur.
Qui sait faire, qui est dans le savoir-faire, qui n'est pas, pas dans le financier.
Et qui met la couleur aussi.
Et du coup, oui, il y avait une volonté de faire profiter d'autres gens de ce savoir-faire. Et puis, il y avait le côté, bon, si on ferme un espèce de groupe, s'il y en a un qui est tiré vers le haut, peut-être ça va tirer tout le monde vers le haut, en fait. Il y avait cette idée de communauté, en fait. Hein. Ça reste une ligne qui se tient. Et puis, on voulait un outil donc, qui permette à la fois... que l'artiste soit rémunéré un peu plus justement sur son travail et qu'en même temps, on puisse peut-être faire vivre une communauté dessus.
Pour ta première pause musicale, on revient à ce que tu as dit plus ou moins au début, hein, c'est-à-dire que t'as poussé à faire ce parcours. Mm-hmm. Hein. C'est un titre de Björk que tu as choisi, Yoga. C'est sur l'album Homogénique, sorti en 1997. Donc.
These accidents that happen follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional landscape.
Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM, Le Mans, dans l'émission Tech Talk 7.2 en compagnie de Siesme. Bon, Siesme, hein, j'ai un peu fait le bilan, donc 26 albums en 20 ans. Il y a un fil conducteur à tout ça, c'est cette volonté de recherche, elle est parce qu'elle n'est pas aboutie ou tu n'y arrives pas ou c'est quoi?
Ben, j'ai l'impression à chaque fois que je sors un disque que j'ai trouvé quelque chose, hein, en vrai. Je pourrais faire un parallèle avec, je sais pas, quelqu'un qui creuse et qui, quand il trouve quelque chose, dit ouais, j'ai trouvé quelque chose. Donc c'est un peu la sensation que j'ai. C'est que j'ai trouvé quelque chose. Je ne suis pas dans la notion d'échec, en tout cas, quand je sors un disque. Mais je n'ai pour autant pas l'impression d'être au fond de mon trou. Donc je continue de creuser, en fait. C'est plutôt ça. De me dire, tiens, il y a encore autre chose ici, ailleurs, qui me pose question, ou qui m'attire. Ou... En tout cas, je n'ai pas l'impression d'avoir fait le tour.
C'est 100% de tes heures, la musique?
Non, du tout. C'est une partie de mes heures. Ça a été 100% pendant les premières années de mon parcours professionnel, mais aujourd'hui, je fais aussi de la photographie et de la vidéo, voilà, qui m'occupe aussi une partie de mon temps.
Donc ça, c'est avec un studio que tu as monté, mais c'est ton studio de musique, en fait, qui sert aussi à cette partie-là ou pas?
Non, du tout, c'est moi et ma caméra qui vais sur un film. Voilà.
C'est-à-dire?
Je suis chef opérateur, je réalise aussi des choses, des portraits d'artistes, par exemple, et puis je fais aussi de la photographie... aussi commercialement, je vends mes services.
C'est quoi ton statut? C'est intermittent? Tu es en...
Bon, si on rentre dans le technique, je suis profession libérale.
Ça permet de vivre?
Et ça permet de vivre, ouais, j'ai cette chance-là. Alors, la particularité, donc je ne suis pas intermittent, je ne vends pas des prestations d'interprète, ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, en tout cas sur le fait que ce n'est pas mon fort, je vends du droit d'auteur. Je vais composer une musique pour un film, et donc on va me payer pour ça.
J'ai vu aussi qu'il y avait une société, donc la société de vidéo, et quelque chose que tu as monté avec d'autres personnes.
On parle de Headsign là, c'est
oui, ça ? Oui, c'est ça.
Bon, c'est une structure qui n'existe pas, c'est un site internet en fait, hein. C'est juste un point de ralliement. Mais,
oui, mais c'est là-dessus qu'on peut s'adresser à toi pour avoir des offres de...
Des prestations, c'est des prestations de studio ça, c'est-à-dire que ça reste encore dans la partie audio.
D'accord,
parce donc que la vidéo, je le fais en nom propre.
En fait, c'est ta partie de production d'autres artistes, par exemple.
Par exemple,
c'est
ouais,
ça.
Ouais, ouais.
Donc, c'est un studio indépendant. On t'appelle, voilà, on veut réenregistrer, on veut reproduire, on veut réaliser les choses. Et ça, c'est ton autre partie.
En vrai, j'y occupe plutôt un rôle de réalisateur artistique. C'est-à-dire que juste un groupe qui a besoin d'enregistrer, je pense que je ne suis pas forcément le bon interlocuteur. Un groupe qui est dans une recherche esthétique, qui peut-être a envie de se poser la question de comment on fixe une œuvre sur un disque différemment, je suis probablement un meilleur interlocuteur sur ces dossiers-là. Ouais.
Pour en revenir à ta musique, comment tu travailles en fait ? C'est une boucle, une sonorité que tu as dans la tête, que tu essaies de mettre en place avec ce que tu as comme instrument, guitare, piano ou autre chose ? Ou c'est parce que tu es devant ta guitare, ton piano, et puis tu trifouilles, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe ? Ça marche comment ta compo ?
Je suis plutôt du genre, je me lève, je m'installe à mon poste de travail, et du coup, je fais quelque chose. Je ne suis pas quelqu'un qui attend d'être frappé par...
La grâce.
Par la grâce ou par ou par les bonnes idées, parce qu'en fait, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, que les bonnes idées, elles viennent quand j'y vais un peu, quoi. Je joue, je tourne en rond, je fais des choses, c'est pas bien, et d'un coup, tac, il se passe un truc, je me dis, ah, ça c'est peut-être le début de quelque chose, qui va peut-être finir à la poubelle sur le morceau, sur sa forme finale, hein, mais qui est une espèce de porte d'entrée, mais j'attends pas d'être frappé par l'inspiration, je vais la chercher, quoi.
Tes morceaux, on va dire, c'est pas qu'ils se ressemblent, mais ils ont quand même tous plus ou moins une couleur par album. Il y a quand même une filiation. Donc, il y a quelque chose qui se déclenche avec deux, trois notes ou choses comme ça. Et puis ensuite, tu tires le fil
l'impression...
tu pars sur d'autres trucs. Album, on peut trouver différentes choses.
Ah, j'espère qu'on trouve différentes choses, mais j'avoue que dans mon process créatif, il y a cette idée de concept. Parfois, au hasard, hein. J'enregistre des choses. Tiens, je trouve ça pas mal, je le mets de côté, tac, tac. Et puis... au bout de 15 jours, je réécoute ce que j'ai fait. J'ai l'impression qu'il y a deux, trois choses qui sont en train de dire la même chose ou dire quelque chose d'assez similaire. Et là, je vais rentrer dans une phase plus intellectuelle, peut-être. Enfin, en tout cas, qui est plus de l'ordre de la réflexion, qui est de se dire, bon, bah, qu'est-ce que je raconte ou qu'est-ce que j'essaie de dire où je vais. Et à partir de là, je définis une espèce de concept où j'essaie de me dire, tiens, qu'est-ce que je raconte ? Qu'est-ce que je raconte et qu'est-ce que je vais raconter, donc ? Et une fois que j'ai identifié ça, ça va assez vite, en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'avec ces deux, trois morceaux de départ, où je me dis, ah tiens, là, je suis en train de... J'ai l'impression de faire une musique de film. Mmh. Et tiens, c'est quoi ce film ? Et si je me dis, ah, ben, c'est un film d'action, et j'ai un espèce de scénario qui commence à naître dans ma tête, etc. Et, tac. Et donc, en fait, le reste de la composition va assez vite, puisque autant au départ, je compose dans le vide, j'ai envie de dire, tiens, je n'ai pas de but. Quand je sais ce que je fais et pourquoi je le fais, du coup, je trouve que ça va assez vite.
Donc,
deux étapes.
On est sur des histoires, en fait.
On est souvent sur des histoires. Sur des concepts un peu moins narratifs, mais souvent sur des histoires, oui. C'est souvent narratif.
Qui font le fil entre le début et la fin. Il se passe quelque chose.
Voilà, j'espère.
J'espère que
je déroule quelque chose.
Bien sûr. On passe à ta deuxième pause musicale. Donc là, on reste quand même malgré tout au niveau de l'ambiance musicale dans les mêmes thèmes. Donc tu nous as choisi The Cinematic Orchestra, un titre de 2019. 01 This Fantasy. Thank you.
but we don't belong. Fate is inside.
Vous êtes toujours dans l'émission Tech2 7.2 sur Radio Alpa en compagnie de Siesme. On en arrive à ce dernier projet, ce dernier album, donc, qui s'appelle New Worlds. 14 titres, donc 26e album. C'est quoi l'histoire que tu as voulu raconter?
Eh bien,
avec cet album, si on fait un peu la suite de ce qu'on disait dans la deuxième partie.
Eh bien, ça parle de Nouveau Monde, comme le voudrait. Je pense que
au
c'est
pluriel, worlds.
Exactement. Je pense que c'est moins narratif, c'est-à-dire je crois que je déroule moins un fil du morceau 1 au dernier. Je crois que je voulais que chaque titre soit un peu son petit univers ou ses petits changements de ces nouveaux mondes, je crois qu'on perçoit. Je crois que notamment la crise
sanitaire. Plus sur un album moins fil conducteur, mais plus avec des... Parce que dedans, il y a, ce qu'on appelle des featuring.
Oui.
Ça veut dire qu'il y a du chant et du texte. C'est toi qui écris ?
Alors non, je laisse cette liberté aux gens avec qui j'ai la chance de travailler. Je leur laisse la carte blanche sur la plume.
Elles ont la musique avant ?
Elles ont la musique, ouais, j'envoie. C'est toujours j'envoie d'abord la musique, parfois plusieurs morceaux en disant « Bon, est-ce que ça t'inspire quelque chose ? Est-ce que t'es partant pour ? » C'est d'abord la volonté de travailler avec quelqu'un. C'est souvent ça qui lance les choses, mais je laisse cette liberté de mots. J'ai pas envie d'aller dans ce contrôle-là.
T'apprécies le travail, qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire que c'est sur cet album, on retrouve Kaya Vega, bien évidemment.
Évidemment.
Et on retrouve Inej, tu l'aides aussi sur sa production personnelle?
Alors pas du tout, très autonome.
Parce qu'elle sait écrire ou c'est parce qu'il y a la voix, il y a quelque chose d'autre qui t'intéresse?
Alors il y a les deux, il y a à la fois un sens...
Non, pécuniairement bien évidemment, mais qui a un intérêt pour ta musique. Quoi.
Oh oui, non, c'est vraiment... en fait, c'est une sorte de personnalité artistique que je recherche. Et je pense que ce soit Inej ou Clélia Vega, on sait tout de suite qu'on ne va pas confondre les deux. Quoi. C'est des gens qui ont des identités assez fortes, qui amènent quelque chose que je ne serais pas moi en mesure d'amener à, à ces morceaux. Et c'est un peu ça que je cherche.
Et c'est parce qu'elles sont en proximité ou parce qu'il y a sans doute d'autres personnes?
Il y a sans doute d'autres personnes, il y a d'autres personnes avec qui je travaille. Là, on est quand même en pleine... C'est un album qui a eu lieu au milieu de cette crise sanitaire, donc les échanges, ce n'est pas le plus simple. Il y a aussi les gens qu'on appelle et qui ne sont pas disponibles à ce moment-là. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est elles aujourd'hui qui sont sur cet album. Mais...
En fait, tu ne pars pas sur ce morceau-là, je voudrais telle voix et ainsi de suite.
C'est à un moment, j'ai un morceau et je me dis, ah ça, c'est pour un tel.
D'accord.
Ouais. Et donc, j'espère que de l'autre côté, ça résonne comme moi, je l'ai entendu.
C'est pour ça qu'on retrouve donc Clélia Vega et Inej, parce que c'était ces deux personnes-là que tu voulais expressément sur ces titres-là. Comment tu classerais donc cet album par rapport à toute ta production?
J'ai l'impression de retourner vers des choses plus trip-hop que j'avais un peu délaissées sur les derniers albums. Et puis, à dire vrai, ça fait, à mon échelle, ça fait longtemps en fait que je n'ai pas fait un album. Je m'explique vite fait. Celui d'avant qui est sorti, c'est un album qui a pris peut-être 8 ans à fabriquer. Donc, je n'ai vraiment pas eu l'impression, quand il est sorti, de le fabriquer au moment où il est sorti. Ça m'a demandé beaucoup de temps pour X raisons. Et du coup... C'est le dernier album que j'avais composé, ça devait être fin 2018 pour une sortie début 2019.
On l'avait reçu ici, on l'avait même diffusé.
Moi, j'ai plutôt l'habitude d'en faire deux par an, des albums. Mais bon, des petits changements dans ma vie qui ont fait que ce n'était pas possible. Donc, j'ai eu aussi l'impression de repartir presque de zéro, en fait, sur cet album. C'est-à-dire, je n'ai pas été dans une espèce de continuité de ce fameux travail de recherche où, à un moment, je jette des choses et je me dis « Ah, ça, je vais les mettre de côté, est-ce que je crois que... ça va être intéressant à un autre moment. » Là, j'ai l'impression d'être reparti de zéro et d'avoir eu envie peut-être de quelque chose de plus agréable à écouter, qui n'est pas toujours exactement ma recherche. C'est-à-dire que parfois, je cherche des choses rugueuses, dures. Pas inaccessibles pour inaccessibles, mais je sais qu'en faisant, par exemple, une rythmique avec beaucoup de distorsions et des basses agressives, je ne vais pas faire une musique qu'on a envie d'écouter à 8h le matin. Je n'avais pas forcément envie de déranger ou d'interpeller, ce qui est parfois ce que je recherche.
Ton processus pour arriver à ça, c'était quoi?
Forcément, j'ai des automatismes dans mon travail. Et parfois, j'ai envie de m'en détacher, parfois non. Et là, je crois que dans ce qui m'intéressait de déplier, de continuer, d'explorer, j'avais, je dirais pas de la douceur, mais en tout cas, envie de quelque chose qui soit pas agressif, en fait.
Ma question derrière ça, c'est-à-dire que c'était l'utilisation de certains types de sons, c'est-à-dire, je ne sais pas, je vais dire des bêtises, des cordes ou des mélodies qui amènent à ça par rapport à d'autres choses qui seraient beaucoup plus rythmiques où on va utiliser la partie batterie, la partie boîte à rythme.
Déjà, il y a beaucoup moins de batterie donc, sur cet album, voilà, ouais, ça c'est un fait.
Et donc, c'était cette volonté voilà, de revenir peut-être à des choses un peu plus plates entre guillemets, mais par des notes, par des nappes.
Plus mélodique choses... en tout cas, ouais. plus basé sur la mélodie, je pense, effectivement. Et puis sur l'émotion, j'avais envie de quelque chose qu'on ressente rapidement.
Ce qu'on retrouve dans une chanson, entre guillemets.
Ce qu'on peut retrouver dans une chanson, mais qu'on retrouve aussi dans la musique classique, qu'on retrouve dans l'opéra, qu'on retrouve en fait un peu partout. Je crois quand même l'émotion, c'est souvent le moteur de la création.
Oui, mais quand je parlais de ça, c'est parce qu'automatiquement, il y a des textes. Donc évidemment, dans l'opéra, il y a aussi des textes. Mais là, t'es reparti sur... moins une ambiance, mais plutôt une song.
Ouais, je ne me suis pas posé la question dans ce sens-là, mais effectivement. En tout cas, il y a des intervenants chants, et moi-même, je chante d'ailleurs sur un titre de cet album. Ouais.
On va écouter justement un extrait dont tu nous as fait le plaisir de nous apporter le titre, puisqu'il n'est pas encore écoutable sur le Bandcamp, il me semble.
Non.
Donc, merci à toi. C'est un feat avec Inej, Greener's Walls. On vient donc d'écouter un extrait du nouvel album de Siesm, New Worlds, avec donc Inej sur le titre Greener's Walls. Cet album est sorti donc début mai. Où est-ce qu'on peut se le procurer ? Bandcamp, SoundCloud
Tiens, SoundCloud, j'ai pas fait. Non, Bandcamp et puis partout en fait ailleurs.
Partout.
Apple, Deezer, Spotify.
Et si on le veut en physique ?
Eh bien, si on le veut en physique, on va être très embêté parce qu'il n'existe pas.
Tu fais partie de ceux qui ont dématérialisé complètement ta production ?
Oui, pour des tas de raisons, des bonnes et des moins bonnes, j'imagine. Mais la première étant qu'il n'y a pas énormément de demandes sur le CD aujourd'hui, qu'on a fait quand même longtemps. Donc aujourd'hui, il faudrait aller vers une production vinyle. Or, le vinyle supporte très mal les musiques avec beaucoup de basses et ou les contenus longs. Donc il faudrait faire 2, 3, 4 vinyles pour que les qualités sonores soient un tant soit peu préservées. Parce que le vinyle, on peut se le raconter comme on veut en termes de... de qualité sonore, en fait, c'est quand même assez vite pas très bon.
Oui, ça vieillit vite.
Ouais, et puis dès qu'on s'approche du centre du vinyle, on perd en aigu, il y a une espèce de distorsion qui peut rendre service, mais que moi, je ne recherche pas. Donc, ça ne fait pas beaucoup sens. Et donc, aujourd'hui, vendre un produit 25 euros avec 8 euros de frais de port pour faire venir 4... Enfin, je ne sais pas, ça ne va pas tellement avec le monde dans lequel on vit, je crois. Enfin, en tout cas, dans mon regard, l'œuvre étant la même aujourd'hui sur Internet, j'ai du mal à me le justifier, moi, intellectuellement, ce passage au format, un format en dur qui...
Donc, on achète au titre, on achète l'album en
entier. Mais personne n'achète l'album. Les gens l'écoutent en streaming.
En streaming.
Ouais. Et c'est très bien. Écoutez la musique. Je ne sais pas que je veux défendre le streaming, mais il y a quand même quelque chose dans le fait qu'un titre, s'il est écouté longtemps, continue à avoir une vie commerciale, plutôt que de mettre le paquet pour vendre un album au jour J que personne n'écoutera plus tard. Il y a quelque chose qui me convient assez dans cette
démarche.
Ouais, il y a un truc plus patrimonial, en fait, je crois, dans la musique. Faire la musique pour qu'on l'écoute longtemps et pas faire la musique pour vendre l'album, peut-être que ça fera avancer les choses.
Merci Siasme d'être passé dans l'émission Tech2 7.2.
Merci pour cette invitation.
Wait a minute now. Okay, Tech2.